nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 11 octobre et il est 8h30 au programme de cette matinale. Nous sommes en plateau avec Juliette Gaudron, bonjour.
Bonjour.
Tu es animatrice projet alimentaire territorial pour le PETR Sud-Lozère. Merci beaucoup d'être avec nous. L'alimentation, tout un sujet au centre de pas mal de débats en ce moment. C'est quoi le PAT et quelles sont tes missions? On en parle avec toi dans un instant. C'est très récent, hein. T'es arrivé quand, fin août, c'est ça?
Oui, j'ai commencé le 28 août.
Bon, bah, du coup, si t'as pas de réponse à certaines questions que je te pose, pas d'inquiétude. Tu reviendras dans un an pour faire un petit bilan de tout ça. En deuxième partie d'émission, Léo, quant à lui, est allé à la réunion publique et consultation de la population floracoise autour de l'avenue Jean Monestier. Ça fait des années que je suis sur cette antenne, ça fait des années qu'on en parle. Ça y est, il va enfin se passer quelque chose. C'était organisé par la mairie de Florac le 5 octobre dernier à l'Institut Agro. Eh ben, on écoutera ça tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab. Aujourd'hui, j'ai choisi Juliette parce que j'aime bien, que ça fait plaisir. Et on commence par l'édito. Vous êtes bien sûr Barthas, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito de Barthas. Quand je te disais que l'ordinateur a du mal à se réveiller, la preuve. Alors je ne me risquerai surtout pas à parler du conflit israélo-palestinien ou de l'annexion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Mes avis sont évidemment tranchés et bien que ce soit un édito, ce n'est pas mon rôle et d'autres en parlent bien mieux que moi sur d'autres antennes. Mais le monde est complètement fou et c'est bien anxiogène. Non, je vais revenir sur l'hommage rendu à Jean-Pierre Elkabbach, bon, pas trop longtemps, hein, mais je me pose très sincèrement une question. Je ne sais pas si vous avez vu les images de l'hommage qui lui a été rendu lundi, mais c'est assez affligeant. Il s'est passé en présence du président de la République et devant un parterre de politiques. Alors, je pose ça là en simple question, à vous de vous faire votre avis. Qu'est-ce que ça dit, cet hommage de la connivence entre politique et journaliste? Elkabbach a quand même la réputation d'avoir été le chien de garde du système politique, servant la soupe à ses amis politiques haut placés, en faisant mine de temps en temps de les secouer, mais pas trop quand même. D'aucuns doivent avoir en tête sa façon particulière de diriger ses interviews politiques, comme quand il préparait l'entretien avec Brice Hortefeux, soufflant à l'interviewé à la fois les questions et les réponses, dans un échange d'une déroutante connivence. Allez voir cette interview, elle est incroyable. Le président Macron a rendu au passage un hommage appuyé au redoutable intervieweur. Ben tiens, je vous invite à aller réécouter les interviews du redoutable intervieweur, le chantre de la liberté de la presse, diront la centaine d'invités de marque à la cérémonie d'hommage. Je pense que vous vous apercevrez assez rapidement de cette connivence avec le pouvoir et avec les politiques en général. Mais comme le dit le générique de cet édito, ce n'est que l'édito des Barthas. Autrement dit, mon avis à vous de faire le vôtre.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas.
C'est un petit air qui fait grincer les dents, un sale refrain plein de mort et pourtant pas une goutte de sang. Sans revolver ni poison, sans scrupules et sans cadeau, c'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est pour pas cher que la bras de l'ami, celui qui donne, celui qui trahit, 30 deniers, c'est le prix. Pour l'exécution facile des dessins les plus salauds, chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Cinglant reproche sur les rideaux visage, elle tombe de la bouche d'un mari volage, indifférent au saccage. Sans pitié, vas-y, fais mal, frappez-tu, allez bourreau, fredonne le madrigal des assassins sans couteau.
Fredonne le madrigal des assassins sans couteau.
Il donne au journal le nom du coupable, même si demain le cas est gros.
Assassin sans couteau, Juliette de retour en plateau avec Juliette justement. C'est dingue quand même. Du PETR, animatrice projet alimentaire territorial. Avant qu'on parle de ce fameux PAT, parlons un peu de toi, de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené ici à Florac?
Moi j'ai une formation de géographe avec une spécialité alimentation agriculture, donc forcément les thématiques du projet alimentaire territorial ça m'intéresse bien. J'ai fait plusieurs expériences en PAT dans le cadre de mes études en stage, donc j'ai été dans les Ardennes faire travailler sur la restauration collective et dans le Haut-Languedoc au nord de Béziers sur le pays Haut-Languedoc et vignobles pour travailler sur la préservation et la valorisation du foncier non bâti et notamment la mobilisation des élus sur cette thématique là. Et là, ma dernière expérience c'était sur Avignon où je travaillais dans une ferme urbaine qui s'appelle le Tipi. Voilà, j'ai la petite la petite promotion. Voilà, je m'occupais de l'entretien des espaces de culture. On a aussi une pépinière urbaine. On faisait des animations avec les enfants des écoles du quartier autour de la ferme urbaine. Et voilà, je cherchais à travailler plus dans le milieu des collectivités territoriales pour avoir ce côté-là, avoir le côté associatif. Et je voulais aussi voir ce qui se faisait dans les PAT de manière plus profonde, pas juste dans le cadre d'un stage, mais voilà, sur une animation plus globale.
C'est ce qui t'a amené donc à travailler pour le PETR, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. Ça regroupe ici à Florac 6 sous cette mission assez variée, hein, agriculture, mobilité, accueil des nouveaux arrivants ou encore la forêt. On salue d'ailleurs Margot qui anime Palabre en forêt sur cette antenne. Toi, tu es donc chargé d'animer le PAT, le projet alimentaire territorial, donc, dont on va beaucoup parler cette année puisque l'alimentation, je le disais, est au cœur de pas mal de débats. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est que ce PAT ?
Oui, tout à fait. Le PAT, c'est un projet qui a pour objectif de faire du lien entre toutes les structures et tous les acteurs et les actrices qui sont impliqués sur les thématiques agricoles et alimentaires sur le territoire. Donc l'idée, c'est voilà, de faire se rencontrer les producteurs, les productrices, les acteurs de la distribution, les consommateurs et les consommatrices pour que tout le monde échange sur ce qu'il fait, où il le fait, comment il le fait et avec qui. Et d'inclure aussi notamment les associations font de l'éducation à l'environnement, au développement durable, les structures d'aide alimentaire, pour que chacun se connaisse. Alors évidemment, sur le sud de Lozère, il y a beaucoup de ces structures qui se connaissent déjà. Oui. Il y a beaucoup de liens. C'est un peu l'idée, c'est de formaliser ce réseau-là et de créer des lieux d'échange pour mettre en lien les projets, s'inspirer les uns les autres et créer des projets peut-être plus globaux et à l'échelle du territoire.
Ouais, vaste programme encore. Ouais. Donc si j'ai bien compris aussi, le but du jeu c'est de faire un diagnostic du territoire. Alors t'es nouvellement arrivé, on l'a dit, il y a un peu plus d'un mois. Est-ce que t'as déjà pu faire des constats ou c'est encore un peu tôt ?
C'est encore un peu tôt. Le premier mois c'était comme je l'ai dit, j'arrive d'Avignon, donc je connais pas trop le territoire encore. Le premier mois, voilà, ça a consisté à prendre connaissance de l'historique du projet, de la candidature du PAT et donc de connaître voilà qui sont les acteurs et les actrices du territoire. Donc je commence tout juste à aller les rencontrer. Pour l'instant j'ai pas de diagnostic plus poussé que ça. Si ce n'est que il y a beaucoup de dynamique du territoire. Donc ça c'est une richesse. L'idée c'est de partir de l'existant, de faire de la concertation justement et pas d'arriver et de tout révolutionner. Il y a déjà des choses qui fonctionnent. Donc c'est de
l'auditeur auditrice, si ce PAT vous intéresse, contactez le PETR et puis
tout à fait.
Et puis voilà. Clairement et concrètement, quelles vont être tes missions cette année?
Ouais. Alors, comme tu l'as dit, ça va être le diagnostic, un diagnostic agricole et alimentaire pour avoir un portrait en fait du territoire, de ce qu'il produit. Donc, là, on a une idée un peu plus précise, c'est beaucoup de l'élevage et pas suffisamment de maraîchage. Mais on a besoin de chiffres précis. Et donc ça, je vais m'appuyer sur des données qui sont déjà existantes, les synthétiser et peut-être les rendre plus accessibles. Et aussi un diagnostic de la consommation, de l'alimentation, donc pour comprendre voilà, comment les Lozériens, les Lozériennes et les Sud-Lozériens, Lozériennes s'alimentent, s'ils utilisent des circuits courts, s'ils mangent voilà, local. On va essayer de chercher, de creuser tout ça. Et plus précisément, je vais réaliser un diagnostic de la précarité alimentaire parce que la précarité alimentaire et plus largement le lien alimentation-santé, ça a été établi comme la priorité du PAT Sud-Lozère. Donc voilà, ça va être aller à la rencontre des structures d'aide alimentaire notamment pour comprendre qui sont les personnes qui viennent les voir. Et pas que, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui passent hors du réseau des structures d'aide alimentaire et qui sont pour autant autant dans le besoin. Donc c'est aussi aller identifier ces personnes-là. Mon autre mission, ça va être de construire la gouvernance du projet alimentaire territorial. Du coup, peut-être, j'aime bien préciser ce que c'est gouvernance parce que c'est un concept qui est plutôt intéressant. C'est, ça va dans le sens de l'idéologie du PAT. Ça s'oppose en fait à gouvernement et à l'idée que les choses viennent du haut. Et en fait, gouvernance, c'est l'idée que ça vient, c'est plus horizontal, ça vient du bas, de la société civile et des acteurs et actrices voilà, impliqués en tant que producteurs, en tant que distributeurs. Et l'idée, c'est que de mettre voilà, sur un pied d'égalité toutes ces personnes-là et que chacun et chacune puisse donner son avis sur la question. Et d'autant plus quand il s'agit d'alimentation, parce que ben, par nature, enfin voilà, on est tous concernés par ce sujet-là. Et donc voilà.
Et oui, tu m'étonnes qu'on est concernés. Tu bosses évidemment aux côtés de Louise, qui elle en charge l'agriculture au sein du PETR. Donc vous allez mettre ensemble, enfin ces bases de données. Ça va être l'idée, quoi.
Ouais, tout à fait. Ben on travaille dans le même bureau, donc forcément on est déjà très en lien. Oui, tout à fait, parce que Louise, elle travaille sur la restauration collective en lien avec les agriculteurs locaux. Elle travaille aussi elle travaille jusque-là sur le foncier. Il y a Floriane aussi qui vient d'arriver, Floriane Rouge qui vient d'arriver sur l'animation foncière. Donc on travaille en lien parce que forcément le foncier c'est une question importante dans le cadre d'un projet alimentaire territorial parce qu'on peut pas sensibiliser les habitants et les habitantes à manger local s'il n'y a pas une offre locale et du coup des agriculteurs qui ont pu s'installer sur le territoire. Donc ça c'est important. Et Louise, sur la restauration collective, forcément ça passe aussi, c'est un débouché important pour les agriculteurs et les agricultrices du territoire. Donc on est forcément en lien et le PETR travaillait déjà dessus en fait avant que le PAT ne soit mis en place. Donc
Hier tu étais au collège de Florac. Ouais. Qu'on comprenne, c'était quoi le but? Tu es vraiment rentré dans le concret, si je peux dire.
Oui, tout à fait. Hier au collège de Florac, le cuisinier Fred a organisé une rencontre entre les collégiens et les collégiennes et les personnes chez qui ils s'approvisionnent. Donc il y avait des producteurs, productrices qui sont venus présenter leurs produits parce que Fred avait cuisiné avec son équipe des plats avec des produits uniquement locaux, pas tous bio, mais il y en avait une bonne partie. Et donc l'idée, c'était de faire se rencontrer ceux qui mangent et ceux qui produisent. Donc c'était un super événement.
Ouais, voilà. Ça doit être génial pour les gosses de se dire ah mais d'accord, ça vient de là-bas, c'est cool.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Je veux dire, ça donne de l'importance à faire attention à ce qu'ils mangent aussi et peut-être ramener des messages chez eux aussi.
Oui, tout à fait. Ça fait aussi écho à ce qu'ils font aussi en classe et c'était un événement comme ça, mais c'est une dynamique qui est présente toute l'année en fait au collège parce que voilà il y a une équipe de cuisiniers qui est impliquée donc c'est chouette.
J'ai l'impression que ça a mis du temps avant qu'on mange local et bio. C'est assez récent en fait comme démarche. Est-ce qu'on a une explication pourquoi ça a pris autant de temps?
Après, bon, j'ai l'impression qu'on mangeait, on mangeait local il y a plusieurs dizaines d'années. En fait, ça s'est perdu avec la grande distribution, avec toute la mondialisation. Donc, en fait, on revient en fait finalement aux bonnes pratiques de nos grands-parents et voilà. Donc, c'est comment on l'explique ? Ben, c'est plutôt les scandales alimentaires avec la viande de cheval, les lactalis, tout ça. Donc ça a éveillé chez le consommateur une méfiance en fait vis-à-vis de la grande distribution et ce besoin de confiance avec ce qu'on mange, parce que voilà, on est ce qu'on mange aussi. Donc forcément, si on veut être en bonne santé, faut aussi s'alimenter correctement. Et le Covid a aussi eu son impact sur notre dépendance vis-à-vis des importations et l'inflation qu'on vit actuellement aussi questionne sur la priorité qu'on donne à notre alimentation et le budget qu'on veut y attribuer.
Ouais. Est-ce que tu sais ce qui va être le plus compliqué pour toi à mettre en place ? Parce que je suppose, tu l'as dit, hein, les producteurs, productrices, ils vont trouver, ils trouvent d'ailleurs leur intérêt à travailler avec des collectivités. Qu'est-ce qui pourrait être un frein finalement à ce projet ?
Moi, le premier enjeu pour moi, c'est de mobiliser la population. Et du coup, un des premiers freins, ce serait de ne pas réussir à les impliquer sur le projet alimentaire territorial. Donc, le besoin, voilà, de recueillir l'avis des premières concernées, donc les consommateurs. Et ça va être un premier enjeu, de réussir à suffisamment écouter aussi les acteurs et les actrices du territoire. J'ai fait des premiers entretiens avec eux et c'est vrai que voilà, il y en a qui me disent qu'ils ont déjà participé à des diagnostics, qu'ils ont déjà donné leur avis sur la question, et que voilà, l'idée c'est de pas juste les écouter, mais c'est aussi de d'agir quand ils nous donnent voilà des informations, qui nous expliquent leurs difficultés, c'est de pouvoir agir et leur apporter des réponses. Et de pas uniquement faire des diagnostics et que ça aille nulle part. Ça c'est pouvoir être capable voilà de les réunir, de les faire se discuter, échanger entre eux et d'apporter des réponses concrètes et pas que ce soit du blabla. Et pour ça, donc il y a un PAT au niveau du département, c'est Aude Charmasson qui s'occupe de l'animer et on est en lien très très proche parce que elle a déjà fait un gros travail de concertation sur l'ensemble du département, mais aussi donc sur le sud de Lozère. Elle me partage toutes ces conclusions qu'elle a pu faire pour que justement on n'aille pas reposer les mêmes questions aux mêmes acteurs et actrices et que on puisse avancer plus rapidement justement grâce à ce travail-là qui a été fait par le département au préalable.
Et nous, auditeurs et auditrices, sur cette antenne, on vous en reparlera puisqu'on a une nouvelle émission qui commence la semaine prochaine qui s'appelle Producteurs de sens, où en fait, une fois par mois, vous irez à la rencontre d'un producteur, d'une productrice, et cette émission va être absolument passionnante. J'ai oublié de te poser la question avant de rentrer dans ce studio, donc si jamais tu ne sais pas répondre, tu ne réponds pas, il n'y a pas de souci. À partir du 17 novembre prochain, c'est la semaine de l'alimentation qui est faite par le département. Est-ce qu'il y a des choses ici prévues à Florac, ou alors c'est à Mende que ça va se passer? Une filière, est-ce que vous allez y participer en fait?
Eh bien, je ne sais pas. Voilà. J'ai pas la réponse. Mais le 17 et 18 novembre, il y a le département justement qui organise, je crois qu'ils ont appelé ça les assises de l'alimentation.
C'est ça.
Et du coup, nous, on sera présents, en tout cas le PETR, le 17, parce que le PAT va dévoiler ses actions, en fait, son plan d'action. Et certaines actions vont concerner normalement directement le sud de Lozère. Donc on va aussi dépendre de cette journée-là.
C'était une réponse. Et puis tu vas nous faire le bonheur avec Louise, justement, d'une émission sur cette antenne. Ça y est, les contours se dessinent-ils ?
Oui, tout à fait. C'est en cours. Ça va bientôt se terminer, cette réflexion autour de l'émission. On doit réfléchir au nom qu'on va lui donner.
C'est toujours le plus dur. Hein.
Ouais.
Moi, je me suis pas embêté. Tu vois, matinal, j'ai appelé ça matinal.
Oui, c'est simple et efficace. Non, on doit en discuter avec les collègues là juste après. après, voilà, on va se faire un petit brainstorming. Ouais, ce sera une émission qui va, qui est en lien avec les actions du projet alimentaire territorial, parce qu'on l'objectif c'est de présenter et de mettre en lumière les initiatives du territoire du sud Lozère. Voilà, qu'il s'agisse d'ateliers de sensibilisation, de journées, voilà, de sensibilisation des enfants ou des adultes à l'alimentation durable. L'idée, ce sera, voilà, d'aller à la rencontre de ces initiatives, de faire toujours une partie un peu reportage pour aller justement au cœur de l'action et prendre l'avis des premiers intéressés. Une partie en principe plus jardinage, voilà, pour faire le lien, en fait, de la terre à l'assiette entre notre alimentation et comment elle pousse. L'idée, voilà, le jardinage, c'est vrai que c'est une pratique qui permet de compléter son alimentation de manière locale et quasi gratuite, finalement, quand on fait pousser nous-mêmes nos légumes. Ça a aussi un intérêt pour faire du lien social dans le cadre de jardins partagés, par exemple. Et c'est aussi une manière de, comme une autre, de se dépenser, de lutter contre la sédentarité et aussi voilà, de penser à autre chose. Donc c'est aussi intéressant pour la santé. Et l'idée, voilà, ce serait de permettre aux jardiniers, jardinières amateurs de prendre des infos sur cette émission et de présenter aussi la cuisine locale, d'aller rencontrer de la restauration collective, de la restauration privée.
Et oui, ce sera en alternance avec justement Palabre en forêt, l'émission de Margot et de Virginie, accompagnée d'Emeric évidemment. La première diffusion aura lieu d'ici une quinzaine de jours, hein, et ce sera le mardi à 11h une semaine sur deux, et le jeudi à 8h30 une semaine sur deux. Bah, merci beaucoup Juliette.
Bah, merci à toi.
À très vite alors. Hein,
c'est ça.
Animatrice pour le PETR en charge du projet alimentaire territorial. Je mets un lien qui est assez intéressant, qui vient du département, si ça vous intéresse, sur le PAT justement. À très bientôt.
À bientôt.
Allez, dans un instant, on parle de l'avenue Jean Monestier, le débat qui agite Florac en ce moment. On écoute d'abord Juliette. Le morceau, c'est Rhum Pom. Tiens, un petit rhum le matin, ouais, c'est pas abusé quand même.
Dans mon petit bar qui paye pas de mine, j'étais tranquille, j'étais pépère avec mes copains. Percolateur et pompe à bière. Quand un beau soir ils sont entrés, quatre playboys et trois donzelles m'ont dit avec autorité: nous souhaiterions boire un cocktail. On veut un rhum pomme, un gin grenadine, une vodka Nutella, une tequila Tagada, un Beaujolais, un Sauvignon Passion, un Baileys Fraise, un whisky Kirikiwi. On dirait qu'ils ne pigent pas, ou que c'est qu'ils ont posé leurs fesses. Ici c'est pas le Lutetia. Seulement voilà, par ces temps de crise, faut pas refuser la clientèle. Ni une ni deux, hop, j'improvise. Je vais leur en faire moi des cocktails. En v'là du rhum pomme, du viandox, fond de rox, du sazano, tabasco, du pernod, porto pruneau, du guignolé, Bartisol menthol, du Ricard poire, du whisky kirikiwi. Vous me croirez si vous voulez, ils sont revenus dès le lendemain avec la gueule enfarinée et une brochette d'autres clampins. Je leur ai servi mes créations, y en a aucun qui a vomi. Il y en avait même pour dire: oh, c'est bon, mais c'est vraiment the place to be. Dans mon petit bar qui paye pas de mine, c'est le défilé des vedettes. Je crois que j'ai trouvé la combine, chaque jour une nouvelle recette. Je fais des rom-poms, des gins grenadines, des vodka Nutella, des tequila Tagada. Je fais du kirmir, du pif avec du sif, du desktop yop, du whisky kirikiwi. Du pommerol vitriol, de l'eau de vaisselle Javel, et ça part comme des petits pains. Ce qui marche très très bien aussi, c'est le Red Bull Fuel, le Mescal Gasoil et le Vermouth Mazout. Mais ça, c'est un peu... Il y en a qui sont restés coincés, quoi. Ils sont venus aveugles et tout. Bon. Excusez-moi, est-ce que vous faites le picon oignon goudron? Hein? C'est pas bon, hein?
Juliette Rompom, c'était le 5 octobre dernier, c'est organisé par la mairie de Florac, la réunion publique et la consultation de la population floracoise autour de l'avenir de l'avenue Jean Monestier, l'IOIT. On écoute ça tout de suite.
Le jeudi 5 octobre avait lieu une réunion publique organisée par la mairie de Florac. Cette réunion avait pour but d'exposer différentes possibilités sur l'avenir de l'avenue Jean Monestier et de consulter les citoyens pour avoir leur avis. Et ensuite, initier une phase de vote entre 4 scénarios différents. Cette réunion durait 1h30, je vous l'ai raccourci en moins d'une demi-heure pour que vous puissiez en prendre connaissance. Je vous laisse donc en compagnie de Fleur Théron, maire de Florac, et Anne-Claire Turpin qui vous présentera les scénarios.
Bien, bonsoir à tous, merci d'être venus ici. Alors on va vous présenter cette sécurisation de l'avenue Monestier. Effectivement, nous étions dans une démarche qui avait commencé bien avant nous, qui avait commencé avec l'équipe précédente et qui était celle de revoir la circulation au centre-bourg avec un certain nombre d'objectifs qui vont vous être rappelés. Dans cette optique, le premier chantier qui allait être lancé et qui a été réalisé, c'est celui de la rue du Théron. Et maintenant, nous sommes donc sur l'avenue Monestier. Alors, je voulais vous signaler que par rapport à cette démarche, Anne-Claire va vous expliquer comment le travail a été mené, avec qui il a été mené, quels ont été les conseillers qui sont intervenus dans ce travail qui va vous être présenté. Vous dire également que nous avons sollicité, vous voyez, il y a la présence avec nous de la gendarmerie, nous avons sollicité les commerçants, nous avons eu des rencontres avec les commerçants, nous avons eu des courriers de la part de l'Association des commerçants de Florac, mais également de la CCI. Et nous avons sollicité d'autres socioprofessionnels. Nous avons sollicité la Poste, nous avons sollicité l'hôpital à travers le SIAD, nous avons sollicité l'ADMR afin d'avoir la vision de personnes qui, dans leur exercice professionnel, sont amenées à cheminer beaucoup dans notre commune. On va aussi maintenant, à l'issue, on va vous faire une présentation totale, c'est-à-dire la genèse, l'état actuel des propositions qui sont faites. Et puis, vous avez peut-être vu à l'entrée des documents qui sont proposés. Et ce document, c'est entre autres le bulletin de vote. Donc, on va vous expliquer comment on compte mener cette opération de vote auprès des habitants. Et alors, comme je l'ai fait tout à l'heure, je tenais à vous dire une chose. Contrairement à ce que certains pensent ou répondent, la municipalité n'a aucune solution à ce jour. Et le résultat du vote sera la feuille de route de l'équipe municipale, quel que soit le résultat du vote. Donc, c'est pourquoi tout est ouvert. À l'issue de cette présentation, bien évidemment, vous aurez tout loisir de poser des questions et nous échangerons à l'issue de cette présentation.
Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Anne-Claire Turpin. Je suis agent donc, au sein de la mairie de Florac et je suis responsable de certains projets liés à l'urbanisme et c'est à ce titre du coup que je vais vous présenter ce projet de sécurisation et de centre de circulation de l'avenue Jean Monestier. Ce projet ne date pas d'aujourd'hui puisque effectivement le projet de circulation de l'avenue Jean Monestier a été déjà envisagé depuis 2016 par l'équipe municipale en place à l'époque, qui a pu bénéficier d'un appui, d'un dispositif d'appui au développement des espaces ruraux via la mission aider pour continuer donc dans cette réflexion qui a été entamée par la mission aider. En 2021, la réflexion s'est poursuivie et d'autres commissions ont été mises en place. Lesquelles commissions étaient d'ailleurs ouvertes aux citoyens intéressés, mais aussi composées de techniciens et d'élus, qui ont permis aussi à cette époque de pouvoir envisager des scénarios et déjà des aménagements possibles. Et toujours dans cette continuité, en 2022, la municipalité a vraiment affirmé son désir de concrétiser les réflexions qui ont été entamées. Et donc, un petit groupe a été constitué pour être en mesure aujourd'hui de vous proposer les scénarios qui ont émergé de cette réflexion. L'idée étant qu'en 2024, il y a une phase de test qui se mette en place pour justement arriver à concrétiser cette réflexion. L'enjeu principal de la municipalité, il est clair, il est d'offrir la possibilité à tous de cheminer en toute sécurité le long de la rue. Évidemment, du coup, les enjeux, ils sont sur les besoins de sécurité et de confort, puisque ce postulat-là induit forcément celui-ci, mais également de fluidifier la circulation automobile, d'envisager aussi le partage de la chaussée avec les mobilités douces, donc on entend par mobilité douce vélo, trottinette, etc., puisque c'est aussi ce qu'on commence à demander aux communes, de réfléchir vraiment dans leur plan de rénovation des chaussées au partage de la chaussée avec les mobilités douces. Et puis bien sûr, tout ceci ne peut pas se faire sans l'étude d'impact sur le plan de circulation de façon générale, c'est-à-dire l'impact que va avoir ce changement de l'avenue Jean Monnetier, ou ces aménagements, sur les axes adjacents de la commune, sur les Venelles et sur les autres axes routiers. En termes de démarche, du coup, la commune n'a pas travaillé seule, on a travaillé avec des partenaires, notamment avec la chef de projet de Petite Ville de Demain, avec le PETR, avec la région et avec le CAUE. On a fait le point sur les diagnostics et les problématiques actuelles, c'est-à-dire qu'on est concrètement allé sur le terrain, on a remesuré, on a réenvisagé les choses. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? Eh bien, on en a fait des synthèses et on a fait des scénarios et on a établi un phasage qui nous permet d'être là aujourd'hui et de envisager l'avenir. On a une largeur de voirie qui fait 7,70 m tout le long de l'avenue Jean Monnetier. En rouge, nous avons les mesures actuelles et en vert, les mesures réglementaires. Alors comme je l'ai dit au groupe d'avant, on a mis mesures réglementaires, on devrait peut-être nuancer un peu le propos en disant mesures souhaitées. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas appliquer une réglementation spécifique, mais l'idée c'est de tendre vers des mesures idéales. Après, on est bien conscient que ce ne sera pas possible et on va le voir tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, la zone piétonne fait entre 50 cm à 1 mètre, la zone de stationnement 1,50 m, la zone de circulation bidirectionnelle, c'est-à-dire en double sens, mesure entre 4,20 m et 4,50 m, et le petit trottoir qui est à droite dans le sens nord-sud, devant la porte de beaucoup de gens, mesure entre 70 et 1 mètre. Donc ça, c'est l'état actuel des choses. Sur les mesures envisagées, l'idéal serait donc d'avoir un trottoir d'1,40 m, et là, je m'arrête un tout petit peu sur cette mesure-là, parce que cette mesure-là, par contre, c'est une volonté forte de dire qu'elle sera de 1,40 m. Le trottoir sera de 1,40 m. Ça, c'est quelque chose sur lequel, a priori, on ne discutera pas. Et c'est ça, justement, qui va conditionner le reste. L'idéal pour un stationnement, c'est un stationnement de 2,50 m de large sur 5 m de long. Tranquillité, et se garer correctement sans empiéter d'un côté ou de l'autre. Un minimum d'une voirie bidirectionnelle de 6 m de large. Donc l'état actuel, on le connaît tous, croisement compliqué de véhicules qui sont obligés d'empiéter soit sur le trottoir, soit sur la chaussée. Des trottoirs beaucoup trop étroits, et ça c'est vraiment le principal problème, parce que inaccessible en poussette, inaccessible en fauteuil roulant, et impossible sur certains tronçons de tenir son enfant par la main. Parfois même on est obligé de passer sur la chaussée, et ça c'est compliqué quand les voitures ont trop empiété sur la partie piétonnière. Et puis bon, des places de stationnement trop étroites, et donc accessoirement une chaussée donc, qui ne respecte aucune norme. Dans ce cas-là aussi, et au vu du trafic qu'il y a dans cette avenue, et que du coup, si on envisage qu'elle soit partagée entre piétons, cyclistes et automobilistes, la vitesse recommandée dans ce cas-là serait plutôt de 30 km/h. Et une piste cyclable, si tant est qu'elle soit matérialisée, ce qui reste complètement une option, devrait faire dans un seul sens au moins 1,50 m de large. Du coup, maintenant, je vais vous présenter les quatre scénarios qui ont émergé de cette réflexion. Donc, dans le scénario numéro 1, ce scénario il envisage un sens unique nord-sud. Le tronçon qui est actuellement en sens unique de la rue Sipelser jusqu'à l'avenue Maurice-Tour serait conservé en l'état. Et l'idée serait de continuer ce sens unique dans ce même sens, nord-sud, jusqu'à, alors, est-ce qu'on va dire l'encrier ? Dans ce scénario, on a envisagé d'autres changements de voie. Pourquoi ? Parce que côté sud, ici, on a quand même beaucoup de services publics. Évidemment, on a les écoles, mais ça ne change rien, puisque de toute façon, le double sens qui est ici, qui va du rond-point du Pont Neuf jusqu'au carrefour des écoles, sera de toute façon maintenu quoi qu'il arrive. Donc pas de problème pour l'accès aux écoles, aux collèges. Mais ici, on a quand même le foyer des aînés, on a aussi la crèche, et on a juste un peu plus loin la bibliothèque. Donc c'est vrai que dans cette zone, on a quand même beaucoup de services publics, et on a aussi accessoirement l'accès pour aller au parking du château, un peu plus haut, qui est quand même un parking très utilisé aussi. Donc c'est vrai que dans ce scénario, on a aussi envisagé deux changements de voie, à savoir mettre le bout de l'avenue de la rue du Pêcher dans l'autre sens, et jusqu'à la rue de la Serve, laquelle rue de la Serve serait elle mise aussi dans l'autre sens, d'accord, de façon à créer un espèce de triangle, comme un carrefour, qui permettrait, ouais, si on rentre par le sud, de venir par la rue du Pêcher, passer par la rue de la Serve et éventuellement déposer ses enfants à la crèche et repartir par le sud sans pour le coup avoir le besoin de faire tout le tour par la nationale. En termes d'avantages et d'inconvénients, on a donc en termes d'avantages la sécurisation des piétons, puisque là il n'y a pas de problème, on a notre trottoir d'un mètre 40. Fluidité de la circulation automobile, puisque on sait qu'en sens unique c'est quand même beaucoup plus facile de circuler. Une voie cyclable qui est envisageable, ou une bande cyclable, des stationnements qui restent possibles, et puis on va dire une population qui est déjà habituée au sens nord-sud, puisque c'est déjà le cas, donc on va dire que ce serait logique, plus logique que ça continue. En termes d'inconvénients, on en a un gros qui se situe à ce niveau-là, que j'ai mis en rouge, qui est un croisement en ciseaux qui va falloir vraiment matérialiser. Alors on dit que c'est un inconvénient, c'est plutôt un inconvénient technique, qu'il va falloir que nous, communes, nous résolvions, puisque effectivement, si les gens sont amenés à prendre la rue du Pêcher dans l'autre sens, ça veut dire que quand ils vont arriver d'ici, ils vont devoir croiser l'avenue pour repartir dans l'avenue du Pêcher. Et c'est vrai que potentiellement, ça peut poser un problème ici, donc là, il va vraiment falloir s'attarder sur un croisement en ciseaux qui soit bien signalé. Augmentation du trafic sur la rue du Pêcher, évidemment, hein, si on prend cette option-là, une rue qui est déjà étroite, avec des stationnements. Et si, alors effectivement, dans l'idéal, quand on crée une piste cyclable et qu'on est cycliste, l'idéal veut que nous ayons les voitures qui soient du côté gauche. Si du coup nous prenons l'initiative de créer une bande cyclable ou une piste cyclable du côté droit, ça veut dire que cette piste sera potentiellement croisée par toutes les venelles qui arrivent à l'avenue Jean Monestier et donc moins sécurisée pour les cyclistes. Le scénario numéro 2, donc on est toujours sur un sens unique, mais cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on part donc devant le collège, devant l'Encrier, pour remonter jusqu'à la rue Cipolser, dans l'autre sens. Pas de changement majeur d'autres voies, si ce n'est potentiellement, et c'est une option plus, un petit changement sur la rue de la deuxième partie de la rue de Cipolser, qui pourrait être mis dans l'autre sens, afin d'éviter, quand on remonte l'avenue, d'aller jusqu'au rond-point devant la gendarmerie pour revenir et potentiellement sur le lotissement des Ibouis. En termes d'avantages, on est toujours sur une sécurisation des piétons, sur une fluidité de circulation, puisqu'on est sur du sens unique, et sur du stationnement possible. Très peu de changements de voie, comme je le disais, donc potentiellement peut-être plus facile pour se repérer, avec une signalétique adéquate, hein, évidemment. Une voie cyclable aussi possible. Et puis, alors, en cohérence avec les volumes de circulation, pourquoi ? Parce que le CEREMA, justement, en 2016, avait mis en lumière le fait que, avec ces chiffres, parce qu'ils avaient fait des relevés très précis avec des volumes de circulation, à cette époque, je vous l'accorde, nous n'avons pas remis ces chiffres à jour, mais en tous les cas, à l'époque, il avait été défini qu'il y avait plus de gens qui rentraient par le sud que de gens qui rentraient par le nord. Les inconvénients de ce scénario, ben, forcément une augmentation et un encombrement dans le lotissement des Ibouis, puisque du coup, les gens qui rentrent par le nord devront, pour retourner par exemple sur l'esplanade, passer par le lotissement des Ibouis. Donc ça peut poser des problèmes à terme, notamment aussi pour les gros véhicules et les poids lourds. Un changement pour la population aussi un peu, qui du coup était habituée, comme je le disais tout à l'heure, au tronçon, dans l'autre sens, jusqu'à maintenant. Sur le scénario numéro 3, on est sur du sens unique, mais cette fois-ci, on l'a appelé inversé, puisque l'idée, c'est de garder donc ce fameux tronçon nord, tel qu'il est aujourd'hui, mais de créer à un sens unique dans l'autre sens, depuis l'Encrier jusqu'à l'avenue Maurice-Thau. Cette option-là, forcément, ferait converger tout le monde sur l'esplanade Marceau Farel. Et donc, forcément, l'avenue Maurice-Thau serait de facto en sens unique. En termes d'avantages, toujours sécurisation des piétons, fluidité de la circulation automobiliste, stationnement possible, voies cyclables possibles, et moins d'engorgement aux deux entrées, puisqu'on ne change pas les habitudes des Florapois. Ils continuent de rentrer comme ils le font, ceux qui arrivent par le sud, ceux qui arrivent par le nord, par le nord. En revanche, en termes d'inconvénients, et c'est quand même, il n'y en a qu'un, il n'est pas petit, c'est-à-dire qu'évidemment, on fait converger tout le monde sur l'esplanade. Voilà. Donc, ça veut dire beaucoup de trafic sur la départementale de ce côté-là, et puis aussi beaucoup de gens qui vont devoir emprunter la rue du Théron, qui est désormais une route qui est partagée, une voie qui est partagée, et qui est limitée à 20 km/h. Ça peut, à terme, potentiellement créer des problèmes, notamment avec des véhicules, des gros véhicules et des camions de livraison, par exemple. Sur le scénario numéro 4, on est sur un scénario qui maintient la situation actuelle. Donc on garde le double sens tel qu'il est, on garde le tronçon nord tel qu'il est, et on garde le double sens tel qu'il est. Mais si on part du principe qu'on veut un trottoir d'1m40, et je rappelle que ça c'est le postulat de départ qui ne sera non négociable, eh bien on ne peut pas mettre des stationnements, un double sens et un trottoir d'1m40. Ça ne rentre pas. Donc on supprime les stationnements sur l'avenue Jean-Monestier. Ce qui fera un trottoir d'1m40 et une voirie bidirectionnel de 6 mètres. Donc les avantages, toujours sur la sécurisation des piétons, pas de problème, c'est un scénario qui nécessite peu de changements pour les automobilistes, puisqu'on laisse les choses telles qu'elles sont, et un double sens possible pour les cyclistes si on fait une chaussée partagée. Donc il y a possibilité de partager la voirie avec les cyclistes, avec une signalétique claire, qui peut prioriser les cyclistes sur les automobilistes, ça c'est à réfléchir. Mais en tous les cas, il est possible d'envisager de partager la voirie avec les cyclistes. En termes d'inconvénients, on est quand même sur un trafic qui est moins apaisé que dans un sens unique, surtout qu'on est sur une voirie de 6 mètres qui va rester quand même assez juste, notamment pour des gros véhicules ou des camions qui seraient amenés à se croiser. On a un vrai problème pour les professionnels et les riverains, parce que notamment les personnels du SIAD, les gens qui vont apporter des repas chez des gens qui en ont besoin, pour les infirmiers, etc. Ces gens ont souvent besoin de se garer d'une façon très ponctuelle sur l'avenue. Et c'est vrai que là, si on enlève tous les stationnements de l'avenue, eh ben, ils vont devoir se garer d'un bout à l'autre. Et ça peut potentiellement les embêter dans leurs usages. On accentue le problème du stationnement. On sait tous qu'à Florac, le problème du stationnement est quand même important. On est bien conscient, et l'équipe municipale en est consciente aussi, et on essaie de trouver des solutions pour parer à ce problème. C'est pas forcément facile, donc ça veut dire qu'on enlève encore des places de stationnement au centre-ville. Sachant quand même qu'on a fait des comptages, et que si on supprimait tous les stationnements de l'avenue, on enlèverait 32 places. Qui sont effectivement toutes utilisées la journée, ça n'y a pas de doute, mais assez peu utilisées en soirée et la nuit, ce qui peut amener à croire que du coup, les riverains ne se garent pas forcément sur ces places-là. Ouais. Et ce qui peut nous amener à dire que les places qui sont donc utilisées la journée sont des places de gens qui travaillent en Florac, et donc potentiellement des gens qui pourraient peut-être envisager d'aller se garer sur les parkings annexes, à savoir Châtemal, le parking de la gare, ou le parking du Foral. Des voies cyclables dédiées impossibles, donc là, comme je le disais tout à l'heure, en revanche, on peut utiliser un sens de voirie partagée. Et puis, un trottoir à droite dans le sens nord-sud, quasi inexistant, puisque actuellement, comme je vous le disais tout à l'heure, il est de 70 cm, parfois 1 mètre. Mais là, c'est vrai que du coup, avec ces 6 mètres de voirie, il ne serait pas impossible que certains véhicules rognent sur ce petit trottoir qui est déjà très petit et qui du coup puissent potentiellement mettre les riverains en sortant de chez eux un peu en difficulté. Voilà pour les 4 scénarios que donc vous retrouvez en détail avec les avantages et les inconvénients dans le bulletin de vote et que vous pouvez aussi retrouver évidemment sur le site de la mairie. En termes de calendrier, nous allons vous proposer de voter pour l'un de ces scénarios. Nous allons vous proposer de voter par classement, c'est-à-dire de classer ces scénarios, et je vous expliquerai après comment. Mais du coup, voilà où nous en sommes. Et le vote sera possible jusqu'au 1er novembre. Ensuite, nous procéderons au dépouillement de ces votes. Et ce qu'on envisage, c'est qu'entre novembre et février, on s'entoure et qu'on puisse préparer cette première phase de test. puisqu'en fonction du scénario qui sera choisi, ça va nécessiter tel ou tel aménagement. Ensuite, l'idéal, ce serait qu'en mois de mars, on commence la première phase de test, qu'ensuite, en mois de juin, on fasse un petit bilan, et puis qu'on prolonge un petit peu cette phase de test. Alors, on a dit deuxième phase de test, mais en fait, c'est le prolongement de la phase de test numéro 1. Et ça, ça a été suggéré notamment par les commerçants, et au départ, ce n'était pas forcément dans notre intention, mais on trouve ça plutôt judicieux, pour que voir si l'impact du flux, du flux estival va avoir aussi un réel impact ou pas sur l'avenue et sur l'aménagement. Donc c'est intéressant aussi d'avoir la période estivale en compte pour arriver à avoir tous les paramètres, en fait envisager tous les paramètres. Et ensuite en août, l'idée c'est que fin août on prenne une décision finale et qu'on voit après comment on aménage de façon pérenne, pas le sens en lui-même. Donc, comment participer à la consultation? Vous avez trois façons de le faire. Donc, je rappelle que ça sera jusqu'au 1er novembre, donc vous avez quand même du temps pour voter. Trois façons de le faire, soit par internet, par bulletin, donc à découper dans le fameux bulletin qui est à l'entrée, que éventuellement vous pouvez aussi récupérer à la mairie, il sera disponible en mairie, et que vous pourrez donc déposer à la mairie, ou par voie postale éventuellement si vous avez besoin et que vous ne pouvez pas faire autrement.
Voie cyclable, est-ce qu'on aura droit à une vraie piste cyclable?
Alors, c'est la question qui a été posée précédemment et vous avez raison de la poser. Je crois qu'il faut être vigilant au principe de réalité. La réalité de notre commune fait que, contrairement à de grandes villes, nous n'aurons pas vraiment une piste cyclable. C'est vraiment, on fait à minima au regard de l'espace disponible. Mais si effectivement, selon le scénario, on essaiera d'avoir, alors je ne sais pas, piste, ça m'embête parce que la piste c'est assez large, je ne sais pas, il faudra trouver un autre terme, la voie cyclable, et qui sera reprise à partir de Cyplocerre, effectivement. Puisque l'idée, c'est effectivement d'avoir une uniformité sur ce cheminement.
Une question, donc dans le cas des scénarios 1 et 2, est-ce qu'on pourra circuler à double sens en vélo? Ou est-ce qu'il y aura une interdiction dans un sens? Parce que normalement, dans les secteurs 20 km/h, en vélo, on circule dans les deux sens. Et j'ai une deuxième question, qui peut voter?
Tous ceux qui viennent travailler à 8, vous venez travailler à
8. Effectivement, on n'a pas stipulé qu'il fallait être majeur pour le pouvoir voter.
Oui.
Voilà. Et tout le monde pour voter.
Mais est-ce que quand on n'est pas habitant de la commune, on peut voter?
Oui, je viens travailler à 8. S'il a travaillé tous les jours en courant, puis qu'il a même son enfant à l'école.
Alors, on peut supposer que quelqu'un de l'extérieur qui votera, c'est qu'il vient à Florac. On a pris l'exemple de l'avenue Monestier, du stationnement jour-nuit. C'est aussi très flagrant avec le parking du Vivier, le tout petit, là, le dernier qui a été fait. On se rend bien compte que dans la journée, il est absolument plein, alors que la nuit, il est à la moitié vide. Donc, ça veut dire que ceux qui l'utilisent sont des gens qu'on peut penser, parce que les voitures, elles stationnent longtemps, penser que ce sont des personnes qui travaillent. Donc je pense qu'il est aussi normal que ceux qui viennent tous les jours travailler puissent avoir leur avis. Alors tout à l'heure, on a dit, mais si jamais l'essentiel des votants sont extérieurs à Florac, ce sera un peu difficile. Mais bon, j'espère que les Floracois, ils vont s'emparer de cette affaire. Alors sur le double sens des vélos, moi je m'en mettrais un peu à la gendarmerie, parce que sur la façon d'organiser ensuite, en fonction du scénario, le cheminement, qu'il soit piéton, qu'il soit vélo, je crois qu'il faudra voir. Moi, ce que j'entends, et là, je le dis à titre très personnel, ce qui me... Des fois, j'ai peur quand je vois des vélos qui sont à contre-courant du flux de circulation. Parce que... Moi, il m'a été signalé que sur l'avenue Monestier, lorsqu'il y a des petites rues, notamment celle qui fait l'angle avec la Banque Populaire, des personnes qui se garent à l'intérieur de cette petite rue et qui ressortent, eh bien, lorsqu'elles ressortent, elles regardent toujours dans le même sens pour voir si une voiture arrive, mais jamais dans l'autre sens. Et quand un vélo arrive, c'est vrai que... Bon, alors, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, nous n'avons jamais eu de mort. Donc, soyons rassurés. Il n'en demeure pas moins que... mais je pense qu'on travaillera ensemble avec la gendarmerie pour avoir la solution la plus adaptée et la plus sécure.
Du coup, le retour de l'association des commerçants serait pertinent d'être partagé parce que, encore aujourd'hui, ceux qui font vivre le village, si la décision est prise un peu à l'encontre, ou enfin, le mot est un peu fort, des commerçants, demain, il n'y a plus de problème de circulation.
Alors, monsieur Delon, j'ai dit tout à l'heure que nous avons eu deux réunions avec les commerçants. Et ces deux réunions ont été, la première était très en amont puisque le projet n'était pas achevé. Nous en avons eu une seconde puisqu'ils ont eu la primeur de cette présentation. Et suite à cette présentation, nous avons eu effectivement un courrier très positif, suivi par un courrier de la Chambre signé par M. Juillet, le président, et qui nous a fait des suggestions très intéressantes. Notamment le timing. Le timing qui vous a été présenté résulte de leur proposition. Et d'autre part, ils nous ont demandé effectivement, lorsque le scénario serait arrêté, donc nous avons accepté ces deux phases de test, mais ils nous ont demandé de participer à la mise en place de la préparation à cette nouvelle, disons, organisation. Et bien évidemment, ils seront avec nous, de même que seront avec nous, bien, je l'ai dit, la gendarmerie, la poste, enfin, tous ceux qui viennent ici, tous ceux qui travaillent ici, qui sont particulièrement en mobilité dans notre commune. C'est pour ça que j'ai parlé de la poste, j'ai parlé de la DMR, j'ai parlé du SIAD, qui sont effectivement des socioprofessionnels. Mais bien évidemment, ils nous aideront à mettre au point le mieux possible la mise en place de la phase d'essai.
Donc, moi j'avais une question pour messieurs les gendarmes. Selon vous, quelle est votre opinion sur ces quatre scénarios? Est-ce qu'il y en a qui posent problème en termes de sécurité?
Oui, bonjour. Je suis chef d'escadron château commandant de la compagnie de gendarmerie de Florac. Donc, malheureusement, à titre personnel, j'ai mon idée, mais à titre institution gendarmerique, je ne me prononcerai pas. Moi, je suis là simplement pour que, en partenariat avec la mairie, pour que, quel que soit le scénario proposé, adopté, que ça se fasse en bonne intelligence, parce que la route se partage, que ce soit les cyclistes, les trottinettes, les voitures, les piétons. Donc voilà, on va faire en sorte que tout le monde partage la route, trouve son compte dans le scénario choisi. Mais en aucun cas, je ne prononcerai à titre gendarmerie sur l'un ou l'autre des scénarios qui sera peut-être validé ou non.
Est-ce qu'il est prévu des ralentisseurs sur l'avenue Jean-Monestier, qu'ils soient dans un sens unique, dans un sens ou dans l'autre? Parce que même s'il y a une vitesse limitée, le soir, nous, quand il fait bon, on marche. Mais je peux vous dire que quand il n'y a pas de voiture, il y en a certains qui dégorment. Et c'est dangereux.
Quelqu'un nous a fait remarquer tout à l'heure que si une des deux hypothèses en sens unique d'un bout à l'autre, ça va nous faire une longue perspective. Et effectivement, peut-être qu'il sera raisonnable de mettre des ralentisseurs. Sinon, il y a, oui, alors ça c'est très onéreux, hein. Les aménagements en quinconce ou en, je sais plus comment, en écluse, voilà, ça aussi c'est possible. Mais en écluse, avec le peu de marge que nous avons, pour avoir un parcours tout droit, c'est difficile. Enfin, il faudra trouver une solution.
Petit rappel. Pour voter, c'est tout simple, c'est jusqu'au 1er novembre. Vous pouvez passer par internet sur le site de florac3rivières.fr. Par bulletin, si vous le récupérez à la mairie, vous pouvez le redéposer aussi à la mairie. Ou alors, vous pouvez l'envoyer par voie postale, directement à la mairie. Il semblerait qu'il soit important de non pas donner un seul scénario possible, votre préféré, mais de les classer du meilleur au moins bon.
Et ben voilà, merci Léo. Je mets évidemment les liens utiles sur notre site dans un instant. habitants. Et aussi, je ne sais plus si ça a été dit dans le reportage, mais ce n'est pas obligatoire d'habiter à Florac pour voter. Si jamais vous travaillez à Florac ou que vous venez déposer vos enfants, etc., vous pouvez tout de même voter. Ben voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas. On n'y est pas trop mal. On se quitte avec Juliette, le diable dans la bouteille. Je vous souhaite une excellente journée. Restez bien sur Bartas. À très vite. Ciao.
Pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui zézeille susurre à mon oreille les plus sales conseils déguisés en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille, me fait impératrice et me donne un royaume de sentiments factices, d'ivresse polychrome. Et pour guider mes pas, j'ai de nobles amis, Lady Margarita et Miss Bloody Mary. Et quand mes courtisans me promettent le ciel, je les crois vraiment quand ils disent que je suis belle. Mais ce ne sont que des ombres, et mon royaume sombre dans un méchant sommeil au fond de ma bouteille. Diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui s'éseille susurre à mon oreille les plus sales conseils déguisés en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille, il me fait oublier qui je suis et pourquoi je me donne à aimer le bourreau et la croix. Je ne connais que trop le nom des assassins, Seigneur de Curaçao et Monsieur Marasquin. Et quand mes courtisans me brûlent à petit feu, je les crois encore quand ils disent que j'ai vu mieux. Mais le miroir se brise et je vois sans surprise une petite vieille au fond de ma bouteille. Diable goguenard, un Satan dérisoire qui enfonce au hasard les clous du désespoir. Un petit diable veille au fond de ma bouteille. Au diable ce bavard et ses belles histoires, au diable ses merveilles et ses mauvais conseils. Si j'allais croire ce que ce diable noir susurre à mon oreille de sa voix qui